Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de Lagleté. Place aujourd'hui à une carte blanche, ces épisodes liés à des productions journalistiques qui ne sont pas parus chez nos médias partenaires, mais qui ont un lien fort avec le territoire. Et c'est même une carte blanche exceptionnelle que nous vous proposons. Vous comprendrez pourquoi dans quelques instants. Nous allons évoquer une biographie à paraître le 19 mai prochain chez City Éditions. Elle est consacrée à une légende de l'équipe de France de football et des Girondins de Bordeaux. Elle s'appelle « Au-delà de mes rêves » et elle est signée Denis Grandjoux. Bonjour Denis.
Bonjour Jean.
Denis, vous êtes journaliste, vous commentez notamment les matchs des Girondins de Bordeaux pour RTL. Je suis ravi que nous soyons autour du même micro pour une fois puisque je les commente moi-même pour Europe 1. Et je parlais donc d'un épisode exceptionnel puisque nous avons la chance d'être accompagnés par celui qui fait l'objet de cette biographie, Marius Trésor lui-même. Bonjour Marius.
Bonjour.
Denis, avant d'aller plus loin pour nos auditrices et auditeurs qui ne s'intéressent pas beaucoup au ballon rond, est-ce que vous pouvez nous rappeler qui est Marius Trésor et quel rôle il a joué dans le football français?
Alors Marius est un footballeur donc je pense qu'on aura l'occasion d'en revenir, qui a fait ses grands débuts avec le ballon rond en Guadeloupe, sa région d'origine. Ensuite il est parti en France, il est venu en France, il a commencé par Ajaccio, ensuite il était à Marseille et puis au Girondins de Bordeaux où il devait venir pour quelques années. Puis ça fait très très longtemps qu'il est là maintenant, c'est une éternité. Et puis bien sûr l'équipe de France et puis des matchs mythiques, 65 fois je crois Marius le maillot, 65
sélections.
Et puis également le tout premier capitaine antillais de l'équipe de France. Pour résumer un petit peu, il y aura beaucoup de choses à dire, voilà un peu pour faire un portrait rapide de Marius.
Marius Trésor, c'est un physique imposant, c'est aussi un look, une dégaine. On découvre dans votre livre que ce n'est pas sans rapport avec un certain Indiana Jones et avec une légende de la Juventus. Racontez-nous ça, Marius.
Mais la légende de la Juventus, tout le monde me disait, mais pourquoi tu joues avec les chaussettes baissées, je devais avoir 14 ans quand j'ai vu une photo d'une légende de la Juventus de Turin qui s'appelait Omar Sivori. Et c'est en voyant jouer ce garçon, numéro 10, qui régalait au milieu du terrain, que j'ai décidé de jouer avec les chaussettes baissées. Et pratiquement toute ma carrière, sauf quand je prenais un petit coup de crampon, parce que bien qu'en étant défenseur, ça m'arrivait d'en prendre aussi, que je jouais avec les chaussettes en haut. Et en plus, il faut dire aussi, j'avais des problèmes...
De mollets.
Oui.
Il a des gros mollets, Marius.
C'est pas comme maintenant, les bas ne tenaient pas, donc il fallait un élastique ou un petit bout de corde pour les faire tenir. Donc ça me donnait des crampes. Donc comme à cette époque-là, c'était pas interdit, je jouais avec les chaussettes baissées. Mais Omar Sivori, je jouais pas au même poste que lui, mais c'est un garçon qui m'a fait rêver énormément.
Et alors quel rapport avec Indiana Jones ?
Mais en fait, Indiana Jones, parce que Indiana Jones, quand pour ceux qui connaissent ce film, Indiana Jones, quand il est tout jeune, en fait, il découvre lors d'une aventure un homme avec un fouet, un chapeau et un grand manteau en cuir, et ça va devenir son look. Et c'est vrai que Marius étant un passionné de cinéma, on pourra aussi en parler, c'est un film forcément qui a marqué beaucoup de monde, et c'est un peu un parallèle assez marrant entre le jeune Indiana Jones qui découvre celui qui va devenir finalement plus tard, et Marius qui découvre avec cet Italien aussi le look qu'il va avoir ensuite. Could have been a footballer if I didn't lay around our stuff for ya. I better find a good lawyer, 'cause I'm about to kidnap a good boy. I guess rap is my party trick. I'm from the 90s, Brian Harvey hits, 80s kids, Bob Marley bits, Baby's kids, house party shit, Kanye flip, little Marty prick, in a cardigan with a guitar in the garden. Did how intimate? Now let's struggle up and get intricate. I don't understand this new style of rap, so for my kids' sake, I pretend I'm in.
Marius, vous avez aujourd'hui 71 ans. Pour quelle raison avez-vous souhaité vous pencher ainsi sur vos souvenirs ?
On m'a parlé de ce sujet. C'est mon ami qui m'en a parlé. Denis m'a dit et pourquoi pas ne pas revenir sur ton parcours. Bon, j'ai trouvé ça, comme on était en plein confinement, j'ai trouvé ça sympa. J'ai dit pourquoi pas. On s'est lancé là-dedans et finalement, ça a collé, ça s'est très très bien passé.
Au fil du livre, on découvre quelques chapitres de votre jeunesse, Marius. Des ballons de papier mouillés sur les plages de Sainte-Anne en Guadeloupe, à votre arrivée en Corse, à l'AC Ajaccio à la fin des années 60. Denis, c'est un football qui n'a alors pas grand-chose à voir avec celui que l'on connaît aujourd'hui.
Oui et non, parce qu'en fait, finalement, le football aujourd'hui, c'est quoi ? C'est 11 joueurs ou joueuses contre 11 joueurs ou joueuses. Avant, c'était pareil, c'est-à-dire qu'on part d'un point A à un point B. Le but du jeu, c'est de marquer des buts et d'empêcher d'en marquer. Ça n'a pas changé, ça. Ce qui a changé, oui, c'est vrai, c'est l'arrivée. On en a souvent parlé avec Marius en préparant ce livre. C'est le poids économique du football, c'est la starification de certains joueurs. En fait, Marius, et comme d'autres, pas beaucoup, hein, mais c'était des joueurs, enfin, quand on se penche un petit peu sur la littérature et sur les infos de l'époque, c'était, on n'est pas dans la star, on est dans le joueur populaire. Le joueur qui, dans le bon sens du terme, un peu au rugby, Serge Blanco, par exemple, des joueurs qui ont marqué toute une génération, toute une époque. C'est vrai qu'on était loin, il y avait de l'argent, Marius, on peut pas dire, il y avait déjà de l'argent, parce qu'on pourra revenir peut-être sur le chapitre que Marius, finalement, a été le premier transfert incroyable entre Ajaccio et Marseille, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler, mais il y a eu un poids économique, mais c'était pas tout à fait pareil quand même, je pense. Il y avait aussi des trucs pas terribles, hein, mais il ne faut pas non plus tomber dans l'angélisme, mais c'était un football plus, je sais pas, plus romantique, je trouve.
Marius, on évoquera l'équipe de France un peu plus tard, mais pour rester sur votre carrière en club, vous allez ensuite passer 8 ans à l'Olympique de Marseille. Quels souvenirs vous en gardez ?
Oh, moi, la seule année que je regrette un peu, c'est la dernière, parce qu'on est descendu en deuxième division, parce que c'est comme ça qu'on disait à cette époque-là, avec une équipe quand même composée de 8 internationaux étrangers et français. Et on n'a vraiment pas compris ce qui s'était passé, parce qu'on avait des garçons comme Marc Berdol, Didier Six, il y avait Victor Zouinka, il y avait Marius Trésor, il y avait Jean Fernandez, il y avait quand même du monde pour que l'équipe fasse un très très bon championnat. Malheureusement, il y a eu des changements à la tête de cette équipe et il s'est passé quelque chose d'incompréhensible. En plus, sur le terrain, on n'arrivait pas à gagner un match. Donc, on s'est retrouvé en deuxième division. Et à partir de là, comme ça faisait 8 ans que j'étais à Marseille, je savais que la direction ne voulait pas de moi. Je dirais 6 mois avant la fin du championnat, j'avais une opportunité pour aller au Bayern de Munich, qui a capoté parce que les dirigeants n'ont pas voulu et ont demandé pour les 6 mois qui me restaient une somme assez astronomique. Donc à partir de là, j'ai terminé mon contrat et je me suis retrouvé à Bordeaux.
Après Marseille, c'est-à-dire en 1980, vous rejoignez les Girondins de Bordeaux, Marius. Vous y restez jusqu'à votre retraite sportive en 1984. Denis, bien que Marius ait passé 2 fois moins de temps comme joueur à Bordeaux qu'à Marseille, on a le sentiment qu'il a beaucoup plus marqué le club girondin. Comment vous l'expliquez ?
Mais déjà, comme Marius vient de le dire, ça s'est quand même assez mal passé à la fin à Marseille, même s'il garde un super souvenir, il est encore très populaire à Marseille, mais il y a eu un souci, quoi. Voilà, on parlait d'une autre époque, mais finalement, il y avait des choses qui ressemblaient à l'époque d'aujourd'hui. Hein. Alors, en coulisses, c'est aucun cadeau. Je pense qu'à Bordeaux, il a marqué parce que c'est Marius, quoi, tout en simplicité. Il a également été dans le club longtemps. Il a rempli beaucoup de missions. Il n'a pas joué longtemps à Bordeaux, mais il a rempli beaucoup de missions. Ensuite, au niveau des jeunes, etc., de l'image du club. Et puis, voilà, il fait partie intégrante, je pense, du paysage des Girondins de Bordeaux depuis cette époque-là. Quoi. Les gens lui sont toujours restés fidèles. Moi, j'ai eu la chance de faire beaucoup de matchs avec lui, de commenter pas mal de matchs avec lui. Les gens, même les tout gamins, ils savent qui est Marius. Bon, s'ils ne savent pas, ils ont le téléphone et puis ils peuvent voir les buts qu'il a marqués d'anthologie avec l'équipe de France il y a longtemps, c'est vrai, un autre temps, mais il a toujours été très populaire et il est toujours, quoi.
Alors justement, parlons donc de l'équipe de France. Vous allez la fréquenter entre 1971 et 1983, le temps de 65 sélections. Vous serez le premier Antillais à porter le brassard des Bleus, Denis le rappelait tout à l'heure. Vos premières années en équipe de France ne sont pas les meilleures, mais est-ce que vous sentez rapidement la montée en puissance d'une génération?
Je ne sais pas si je l'ai vraiment ressenti de suite, mais je dirais qu'à partir de 76, c'est vrai, quand on a attaqué les qualifications de la Coupe du Monde de 78 pour aller en Argentine, c'était un certain Bulgarie-France.
Ah, c'est pas possible! Ah, c'est pas croyable qu'il accorde pénalty là-dessus! Mais c'est invraisemblable, à 3 minutes, 2 minutes de la fin de la partie. Alors ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire, monsieur Foot, vous êtes un salaud. À côté ! À côté ! Eh bien, il y a un bon Dieu, croyez-moi. Eh bien, il y a vraiment un bon Dieu.
Michel Hidalgo avait vraiment rajeuni cette équipe. Je crois que comme ancien, vraiment ancien, il y avait Henri Michel et moi. Donc à partir de là, la jeune génération un peu, comme on dit toujours, Platini, est arrivée. Et ça a donné un coup de fouet au football français parce qu'on a commencé à avoir des résultats. Et je dirais aussi qu'on avait à la tête de cette équipe un garçon extraordinaire, Michel Hidalgo, qui avait été d'abord adjoint de Georges Boulogne et ensuite adjoint de Stéphane Kovacs. Donc, il sortait de la bonne école et qui a mis une ambiance dans cette équipe de France extraordinaire. Et c'est ce qui nous a permis... moi, je n'ai pas pu participer à cause de blessures, mais d'être championne d'Europe en 1984.
Michel Platini disait récemment dans un documentaire que l'équipe de France était allée à la Coupe du Monde en Argentine en 1978, pas tout à fait en touriste, mais pas complètement non plus pour la gagner. Est-ce que vous avez senti la mentalité évoluer au cours de ces années-là ?
Mais je dirais simplement qu'on savait, quand on a vu le tirage au sort, on tombait contre le pays organisateur, plus une équipe qui avait été championne du monde, c'était l'Italie et la Hongrie. Et quand on voit les matchs, la façon dont ça s'est passé, je pense que cette équipe de France aurait pu être meilleure. Mais ça faisait 12 ans que l'équipe de France n'avait pas participé à une Coupe du Monde. Et le fait de nous être qualifiés, pour nous, on avait fait le plus dur. Alors que, justement, le plus dur ne faisait que commencer. Et je crois aussi c'est ce qui nous a permis de faire une meilleure Coupe du Monde 4 ans plus tard en Espagne, parce que après la défaite contre l'Angleterre, la majorité des journalistes se sont penchés sur ce qui s'était passé 4 ans plus tôt, en disant que cette équipe de France allait retourner très rapidement en France, et finalement on est arrivé jusqu'en demi-finale.
Tu me jettes, tu me quittes, pas de quoi se jeter d'une tour. Après tout, ça m'évite d'avoir à te jeter un jour. J'ai porté des poids plus lourds, j'ai eu des astres plus désastreux. Des deuils et des crashs d'amour, des instants plus douloureux. Comme France-Allemagne 82. France-Allemagne 82. Tu me balances, tu me laisses, pas de quoi faire une histoire. Je vais tourner le dos à la fitness, manger comme un homme et puis boire. Je n'aurai plus à m'émouvoir sur tes expos d'artistes bulgares. tes films qui font pleurer les yeux, encore plus triste que France-Allemagne 82. France-Allemagne 82.
Oui, précisément, le summum de votre carrière en bleu reste ce France RFA de 1982, cette demi-finale que beaucoup considèrent comme le plus beau match de l'histoire de la Coupe du Monde, qui a donné lieu à de multiples commentaires et même à des productions artistiques, chansons, pièces de théâtre notamment. Et vous en êtes un acteur majeur puisque vous inscrivez une demi-volée fantastique pour le but du 2-1. Quels souvenirs vous en gardez près de 40 ans après ?
Très mauvaise. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Bon, parce que moi, j'avais 32 ans. Je savais pertinemment que 4 ans plus tard, j'avais très peu de chance d'y être. Et je pense que j'aurais bien aimé, dans la carrière, faire simplement une finale de Coupe du Monde. Et je dirais simplement, sans bon, M. Corvert, qui était l'arbitre du match et qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, n'a pas été à la hauteur de l'événement. À moins que pour les gens de la FIFA, une finale Allemagne-Italie était beaucoup plus conforme qu'une finale Italie-France.
À côté ! Aïe, 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 c'est pas vrai ! Et encore une fois, Schumacher !
Il n'== pas fait le voyage.
Non, regardez où il va mettre son pied, Schumacher. Regardez. Voilà.
Ah oui.
Alors, une fois, ça va, mais ça échappe chaque fois dessus corner.
Vous évoquez là notamment la non-expulsion du gardien Schumacher après son agression sur Batiston. Denis, vous côtoyez régulièrement Marius. Quelle place garde-t-il aujourd'hui dans le cœur des supporters bordelais ?
Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense qu'il est toujours extrêmement populaire parce qu'il n'a jamais triché. Il a toujours dit ce qu'il pensait. Il a toujours été représentant d'un football que je dirais, enfin voilà, intègre quoi. Donc c'est quelqu'un qui continue il fait un peu partie de la famille quoi. C'est voilà, moi souvent je le chambre, je lui dis ça serait bien que tu reviennes un peu sur les terrains parce que Bordeaux notamment en ce moment ils ont besoin de un peu de monde. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui est toujours dispo, qui dit tout, voilà, s'il y a un petit autographe, il va aller le signer sans problème. Il se la joue pas quoi. Et je pense que ça plaît beaucoup aux gens. Ça, il représente quand même ce qu'on disait tout à l'heure, genre, c'est-à-dire un côté ce football d'avant. Mais encore une fois, c'est pas pour dire que c'est mieux ou pire. Enfin voilà, aujourd'hui, mais c'est voilà, il y a beaucoup de nostalgie quand il évoque ces noms. En plus, enfin, je sais pas, moi, Platini, Giresse, Tigana, Trésor. C'est toute une génération et puis Séville. Bon, après il déteste paradoxalement ce moment-là, mais pour nous, c'est moi je me rappelle. J'étais adolescent, j'ai vu ce match, ça m'a bouleversé quoi. Et puis voir Marius en prêt en vrai, c'est quelque chose d'incroyable. Comme vous l'avez dit, c'est un acteur majeur de ce match-là. Il déteste ce match-là parce que ça correspond. Et Platini, pareil. J'ai beaucoup parlé avec Michel Platini. Platoche aussi déteste ce match-là hein, parce que Marius même, on le dit dans le bouquin. On a joué comme des cons. Ils auraient dû le gagner ce match et on n'aurait plus jamais dû entendre parler de Schumacher. Ils auraient dû les exploser. Mais voilà, et Marius, c'est tout ça quoi. C'est des moments de joie, c'est Maracana, ce but-là incroyable qui marque aussi, c'est toute une époque, quoi. Comme disait Michel Audiard dans ses films.
Vous avez joué comme des cons ou comme des romantiques, Marius ?
Non, comme des cons. Non, comme des cons. C'est surtout à cette époque-là, on pouvait donner le ballon au gardien, on pouvait vraiment faire courir les Allemands et on a continué à jouer. On n'a pas pensé que 3 jours après, il y avait une finale. Je crois que si on avait pensé à la finale, automatiquement, on aurait attendu les Allemands et quand on avait le ballon, on l'aurait fait circuler tranquillement et attendre la fin du match. Mais nous, on s'est dit pour une fois, surtout même sur le banc, ils nous poussaient encore à continuer à jouer. Donc, on a joué comme des cons et à l'arrivée, c'est les Allemands qui se sont qualifiés pour la finale.
On en a parlé tout à l'heure, après votre retraite sportive, vous avez intégré l'encadrement des Girondins de Bordeaux. Vous avez pris votre retraite, la vraie, il y a quelques mois à peine. Marius, un mot sur la situation actuelle des Girondins de Bordeaux. Vous en étiez encore salarié, donc, il y a quelques mois. Leur actionnaire principal, King Street, vient de les lâcher. Vous êtes inquiet pour votre club ou vous pensez que ce départ est finalement un mal pour un bien ?
Mais pour moi, que King Street s'en aille, bon, c'est leur droit. On ne peut pas aller à l'encontre de ça. Moi, ce qui me préoccupe vraiment, c'est la situation du club dans le championnat. Parce que pour l'instant, vu les résultats qu'on a, ce n'est pas dit qu'on sera encore en Ligue 1 la saison prochaine. C'est ça le plus important, c'est pas que King Street s'en aille. Bon, ça fait très longtemps que les supporters demandent le départ de King Street. Bon, maintenant ils sont partis, mais il faut d'abord que le club reste en Ligue 1 et après on verra ce qui se passe pour la saison prochaine.
Denis, nous sommes aussi là pour essayer de comprendre le travail journalistique. Comment avez-vous abordé cette collaboration avec Marius Trésor ? Vous l'avez dit, c'est une légende footballistique, notamment pour ceux qui, comme vous, étaient adolescent au début des années 80, comment on aborde cela avec suffisamment de recul ?
Recul, je sais pas. En fait, on a au départ, on se connaît, voilà, comme dit Marius, on se connaît très bien. On a fait on a commenté des matchs, on s'est souvent croisé au Hayan. Enfin voilà, c'est une envie finalement commune. Moi, j'ai amené. En plus, on aime tous les deux rigoler, on aime tous les deux, on aime l'humour, on se prend pas au sérieux ni lui ni moi. En fait, ça s'est passé techniquement, on s'est peu vu. Pour ce livre, on s'est beaucoup téléphoné, je l'ai beaucoup pris la tête parce que voilà, il y a des choses. Marius a une mémoire incroyable et chaque fois il me racontait des anecdotes. Je lui dis, mais non, c'est pas possible, mais parce que enfin, bon, vous l'avez lu, genre, il y a quand même des choses incroyables dans ce livre, incroyable, mais c'est pas du tout méchant. C'est pas on n'a pas fait un livre pour faire du buzz négatif ou dénoncer en fait les gens dont tu voulais pas parler. C'était le deal de départ. On n'en a pas parlé, en fait. On n'a pas perdu de temps à parler de gens. On comprend qu'à Marseille, il y a une blessure qui ne s'est pas forcément fermée. On comprend, voilà. Mais on ne donne pas de nom. On n'est pas là pour. Journalistiquement, ce qui était intéressant pour moi, c'était une première, c'était de me mettre dans la peau d'un joueur guadeloupéen au gros mollet qui a vécu des choses incroyables. Et c'était une sorte de, je sais pas, de voyage intérieur. Et pour lui aussi, je pense, c'était le moyen aussi de se remémorer des choses aussi. Il a une mémoire incroyable, hein, des résultats, des joueurs qu'il a affrontés. Parce qu'on aborde finalement beaucoup de, je pense, l'air de rien, entre guillemets, beaucoup de choses en fait. Le racisme, l'argent, le pouvoir, le foot, les coulisses, mais à la Marius, quoi. Simplement, sans fioriture et en même temps avec pas mal de second degré aussi.
Marius, à quoi ressemble aujourd'hui votre vie de retraité pour de bon cette fois ?
Oh là, c'est la vie d'un médocain qui... C'est vrai que je suis arrivé à Bordeaux au départ, comme je le dis dans le livre, pour un an. Et ça va faire, j'attaque ma 41e année en Gironde. J'ai découvert une région extraordinaire et ça m'a donné envie de terminer ma vie ici. J'aurais pu à un certain moment repartir aux Antilles, mais ça ne s'est pas fait et je ne le regrette pas parce que je suis bien ici. Bon, maintenant la vie d'un retraité, je suis toujours un peu proche des Girondins parce que l'année dernière j'ai été nommé président de l'association des Girondins de Bordeaux, donc je peux aller, à ce titre-là, je peux aller voir les matchs des Girondins, même si c'est à huis clos, comme certains anciens, comme Patrick Battiston, Yannick Stopira, il a un rôle, Alain Roche, il y a Ulrich Ramé. Donc, on se retrouve de temps en temps au stade. C'est vrai qu'on souffre beaucoup, mais bon, ma vie, elle coule tranquillement. Elle coule tranquillement, j'ai 71 ans, donc on verra bien.
Est-ce que vous seriez prêt à vous investir dans un projet de reprise des Girondins de Bordeaux ?
Marius, président !
Non, je le sais ça à d'autres personnes. Je vois qu'il il faut dire que les Girondins intéressent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à se mettre sur les rangs. Quand j'ai vu le président le propriétaire de Rennes qui veut aussi inciter les châtelains à faire en sorte que les Girondins de Bordeaux restent. Je connais aussi un autre repreneur, lui, ça fait très longtemps qu'il est là, c'est Bruno Fievé, qui a du monde aussi derrière lui. J'ai discuté avec Alain Giresse, qui a un gars qui de Langoiran qui est parti aux États-Unis
et
qui a fait sa fortune là-bas, qui sont intéressés par le club. Pour moi, c'est ça le plus important. On aurait été vraiment déçus qu'il n'y ait pas de gens qui veulent reprendre les Girondins de Bordeaux.
Nous ne pouvons pas nous séparer sans laisser nos auditeurs apprécier les talents d'interprète de Marius Trésor. Voici donc ce qui fit danser les foules lors de l'été 78, Sacré Marius.
Je suis un enfant des îles, je suis né sous le soleil. Du côté de Pointe-à-Pitre, la vie a un goût de miel. J'ai quitté la Guadeloupe pour aller à Ajaccio. Mon cœur n'avait plus de doute, la Corse est un pays chaud.
Sacré Marius,
moi je viens d'un pays chaud.
Sacré Marius,
moi je suis bien dans ma peau.
Sacré Marius,
tout comme un poisson dans l'eau.
The Voice.
Non, mais c'est tout simple. Hein.
On le raconte dans le livre.
Oui, on le dit dans le livre. Si je me suis retrouvé à chanter, à faire un disque, c'est la faute d'un garçon d'origine dont les parents étaient d'origine antillaise, c'est Julien Clerc, qui m'avait invité à une émission avec Jacques Chancel.
Le grand échiquier.
Le grand échiquier, au départ pour parler de football. Et quand je me suis retrouvé sur le plateau, il m'avait dit qu'il n'était pas chanteur, qu'il était que footballeur. Mais j'aimerais savoir s'il veut bien qu'on fredonne ensemble une chanson antillaise, comme j'avais les paroles en tête. Bon, et une fois qu'on est au pied du mur, j'ai dit pourquoi pas, et voilà. Et quand je suis retourné à Marseille, il y a deux gars qui sont venus me voir, et c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire un disque.
Merci beaucoup Marius Trésor, Denis Grandjou, d'avoir pris le temps de répondre aux questions de podcasting. Je rappelle le titre de ce qui est donc à moitié une biographie et à moitié une autobiographie, écrite à quatre mains. Au-delà de mes rêves, ce livre paraîtra le 19 mai chez City Éditions. C'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Clara Etchari, Lisa Feignet, Marion Ruault et Guillaume Cascara, iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Taïeb, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.